Le projet qui, au matin, avait enthousiasmé le comte Neuville jusqu'à l'ivresse, l'après-midi lui parut douteux. Que Cléophas mérite la mort ne faisait pas mystère. De là à l'assassiner pendant la garden party, et comment avait-il pu penser qu'Alexandra l'admirerait pour cela? Histoire d'en avoir le cœur net, il appela Évrard Schweringen, qui savait tout, absolument tout, sur l'histoire de l'aristocratie belge depuis 1830. « Mon cher Évrard, j'ai besoin de tes lumières. Y a-t-il un précédent en matière d'assassinat au cours d'une réception dans notre milieu ?»«
Oh, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas tous te les citer, mon cher Henri. »
Détail qui a son importance. Y a-t-il un cas où l'assassin était celui qui recevait ?
Ah, bien sûr ! Le prince de Retorcarros a tué le duc de Molanway lors du cocktail qu'il offrait en l'honneur de la fête du roi. La baronne de Bernac a tué la vicomtesse de Lamberti pendant un bal de charité qu'elle donnait chez elle, etc. Là aussi, les cas abondent. Il est plus rare que l'invité tue l'hôte. C'est plus difficilement défendable. Alors que l'hôte qui tue l'invité, tout le monde peut le comprendre.
Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de conséquences ?
Que vas-tu imaginer ? La justice a sévi, bien sûr.
Je voulais parler de l'opinion. Comment notre monde a-t-il traité ces assassins ?
Notre monde a très bien compris et a continué de recevoir ces gens et leurs familles.
Comment recevoir des personnes qui sont en prison ou sur l'échafaud ?
En leur envoyant des cartons d'invitation à leur nom.
Ébahi, Henri garda le silence. J'ai encore besoin de tes lumières, reprit-il. Pour ces meurtres que tu m'as cités, y avait-il eu préméditation ?
Non, évidemment.
Pourquoi évidemment ?
S'il y avait eu préméditation, notre monde eût trouvé cela inadmissible. Tuer un invité dans un instant de colère, cela sans sa classe, c'est chic. Préméditer l'assassinat d'un invité, c'est prouver, avec la dernière grossièreté, que l'on ignore l'art de recevoir.
N'as-tu pas un précédent à me citer ?
Dans notre milieu ! Tu déraisonnes, mon cher Henri.
Et si la préméditation était cachée dans l'un des cas dont tu m'as parlé ?
Bon, la préméditation est impossible à cacher. On ne tue jamais de la même façon quand on prémédite. Rien n'est plus facile à démontrer que la préméditation.
Donc si l'un d'entre nous tuait un invité avec préméditation, que se passerait-il ?
Tu le sais aussi bien que moi. Nous ne le connaîtrions plus. Nous ne l'inviterions plus, ni lui ni sa famille proche à nos réceptions.
Neuville resta abasourdi par la cruauté d'une telle sanction.
Pourquoi ces questions, mon cher Henri ?
Comme tu le sais, je prépare la garden party pour ce dimanche et j'avais le projet de t'assassiner, mon cher Évrard.
Oh, je te reconnais bien là. À dimanche, cher ami, je me réjouis de te revoir.
Neuville raccrocha, prit son visage entre ses mains et tira un trait sur le meurtre de Cléophas de Twinon. Je me retrouve à la case départ. Quelle situation, quel cauchemar. À l'âge de 8 ans, Henri avait posé une question terrible à son père. Ce n'était pas « Est-ce que le Père Noël, c'est les parents ?» Ce n'était pas non plus « Comment fait-on les bébés ?» C'était beaucoup plus grave. « Papa, être noble, qu'est-ce que ça veut dire ?»
Aucassin avait tourné vers lui un regard pénétrant.
« À ton avis, mon fils, qu'est-ce que cela signifie ?»
« Je ne sais pas.
Réfléchis. »
L'enfant hasarda. « Vivre dans un château ?»«
Mais non, voyons !»
répondit le père avec mépris. Humilié, le petit garçon se demanda pourquoi, dans ces conditions, on se saignait aux quatre veines pour habiter le pluvier.
« Réfléchis encore !»
ordonna Aucassin. « Être d'une bonne famille ?»«
Ça ne suffit pas !»
Henri baissa la tête, plein de confusion. Le père finit par déclarer d'une voix menaçante
« Être noble, mon fils, cela ne signifie pas qu'on a plus de droits que les autres, cela signifie qu'on a beaucoup plus de devoirs. »
L'enfant s'en alla terrifié. Il se roula en boule sur son lit en se répétant « Être noble, ça ne signifie pas qu'on a plus de droits que les autres, ça signifie qu'on a beaucoup plus de devoirs. » Comme un mantra dont la signification lui échappait, mais que l'ardeur à le psalmodier rachetait. 4 ans après, Louise mourut. Ce fut vers cette époque que, sans s'en rendre compte, Henri changea le mot d'ordre dans sa tête. Être noble,
ça signifie avoir moins de droits que les autres et avoir beaucoup plus de devoirs. Louise était la personne qu'il aimait le plus au monde. À l'école du village, Henri fréquentait des enfants qui n'étaient pas nobles. Ils mangeaient bien, ils habitaient des maisons bien chauffées, ils allaient chez le médecin quand ils étaient malades. Par conséquent, leur grande sœur ne mourait pas. Inconsciemment, Henri comprit qu'être noble, cela signifiait perdre la personne aimée. Mais la formule d'Aucassin regorgeait d'ambiguïté. Où cessaient les droits? Où commençaient les devoirs? C'est parce qu'elle n'avait pas eu droit à une nourriture suffisante, à une température acceptable et à une consultation médicale que Louise était morte. C'est parce que le petit frère était noble qu'il avait eu le devoir de perdre sa grande sœur. De tous les devoirs qui lui incombaient, celui-là avait été le plus inhumain. Les autres, pour être moins affreux, ne manquaient pas de l'asphyxier. Il fallait, en toutes circonstances, donner l'impression de la sérénité, de l'aisance, de la dignité, de la moralité, de cet édifice insensé de complexité qui constituait le paraître. Échouer au paraître pouvait se produire très facilement. On racontait que les cartons 13 étaient allés visiter les serres de Laeken en famille. Comme ils étaient ruinés, à l'heure du déjeuner, ils avaient sorti de leur poche des tartines emballées de papier d'aluminium, qu'ils avaient mangées sans se cacher. La sanction était tombée aussitôt. On ne les connaissait plus. Henri vivait dans la hantise de faillir au paraître. Lui-même ne se serait jamais autorisé à ne plus connaître quelqu'un, à plus forte raison pour une histoire de tartines. Mais il acceptait l'idée que les autres puissent ne plus le connaître, pour un motif encore moins grave. À cette anxiété permanente s'ajoutait un complexe de génération. Il existe une frontière temporelle d'autant plus énorme qu'elle n'est pas officielle qui sépare l'humanité en deux espèces, qui pourraient bien ne jamais se comprendre. Arbitrairement, situons-la en 1975, tout en étant conscient d'une variabilité extrême de cette date en fonction des pays et des milieux. C'est la limite qui sépare les enfants nés pour séduire des enfants nés pour être séduits. Les enfants de l'ancien monde n'avaient droit qu'à une portion congrue d'attention et d'affection, sauf s'ils s'efforçaient de séduire leurs parents. Les enfants modernes étaient dès leur naissance l'objet d'une tentative de séduction de la part de leurs parents, ces derniers n'ayant droit qu'à une portion congrue d'affection. C'était une révolution de point de vue. Les enfants qui, dans l'ancien monde, n'étaient qu'un moyen, étaient devenus la fin, le souverain but. Henri, né en 1946, appartenait d'autant plus à l'ancien monde que l'aristocratie constituait un barrage à cette révolution. Cette inversion de point de vue était interdite par les règles de dévolution nobiliaire. Par définition, l'enfant noble doit tout à sa naissance et donc à ses parents. Pour donner un exemple, si Aucassin avait tué une perdrix à la chasse, cela ne signifiait pas que les enfants mangeraient de la volaille au dîner. Carmen cuisinerait le gibier, la porterait à table, d'abord à la comtesse, ensuite au comte, qui, en se servant, ne songerait pas un instant à en laisser aux enfants. Non qu'ils fussent de mauvais parents, mais parce que l'ancien régime les empêchait de penser à leur progéniture. Alexandra, née en 1967 à fortiori, dans la Belgique nobiliaire, appartenait elle aussi à l'ancien monde. Le statut de leurs trois enfants, nés en 1992, 1994 et 1997, était plus ambigu. Modernes par leur date de naissance, ils avaient été élevés selon le monde ancien par des parents que leur milieu avait rendu aveugle à cette révolution. Si Oreste et Electre s'accommodaient de cette ambiguïté, sérieuse s'y était prise comme dans de la glu.